On va encore un peu parler tous ensemble avec Josy Riffaut et Sarah Bellini et Flora et moi. Voilà, on va échanger toutes les quatre. Et ensuite, il y aura un petit temps de questions aussi avec vous. Et on va laisser Josy Riffaut et Sarah Bellini se présenter.
Merci. Bon, moi, j'ai planté le décor, j'ai besoin de ça. Ça me renforce. Et puis, ça met la couleur quand même. Je trouvais que c'était un peu triste, on ne savait plus où on en était. Et puis, bon, des témoignages de slogans qu'on expliquera tout à l'heure. Donc, moi, je suis paysanne en Gironde. Je suis syndicaliste à la Confédération paysanne et j'ai eu des mandats, notamment à Via Campesina International, qui est le mouvement paysan qui rassemble des millions de paysans et de paysannes à travers le monde. Il y a une très très belle exposition dans le gymnase que je vous conseille d'aller voir.
Merci. Et moi, du coup, je suis Sarah, je suis paysanne boulangère en Aveyron. Depuis 3 ans, c'est une reconversion. Et donc je déteste ce mot, je suis chef d'exploitation et je suis sur la ferme avec mon conjoint qui est donc conjoint collaborateur. Donc ce n'est pas la norme, on en parlera après. Et je fais aussi partie d'un groupe de paysannes aveyronnaises qui existe depuis 2 ans et qui s'appelle les Travailleuses de la Terre, avec qui on... C'est un ensemble de paysans. C'est un très nébuleux. On est. Ouais, ça saute, ouais. Donc, on est un certain nombre de paysannes. On se rassemble toutes les 6 semaines pour parler et pour s'écouter, pour trouver des solutions à nos soucis quotidiens, mais aussi à des soucis plus profonds. Donc c'est un groupe en non-mixité et voilà, ça a changé ma vie de rejoindre ce groupe. Je pourrais expliquer pourquoi aussi. Voilà.
Je pense que tu... Comment ? Ah, on se présente aussi. Bon, bah, moi c'est Flora, je suis une des organisatrices de ce festival. Et avec Sophie, on a... Je te présente aussi du coup. Sophie, vas-y, présente-toi, je voulais dire quelque chose.
Donc Sophie, je suis à l'association Environnement Lot-Sélé et aussi à Sous les panneaux Larage, un collectif de désobéissance civile par rapport au projet de Tour de Fort, de Total. Donc voilà, et on a participé à cet événement interlutte avec beaucoup d'autres organismes, comme vous le savez, j'imagine. Et voilà, on a eu envie de faire un moment écoféministe. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas trop ce que ça veut dire. Et peut-être, ça serait bien de le réexpliquer déjà dans un premier temps, si vous êtes d'accord.
Oui, oui, moi je vous remercie vraiment d'avoir pris cette initiative, de nous avoir appelés pour parler de ce sujet qui est un vrai beau sujet. Et dans un lieu militant comme ça, je trouve que c'est très très bienvenu parce que souvent ben, on le réserve à des endroits beaucoup plus spécifiques et c'est dommage parce que c'est complètement interlute précisément et qu'il faut que ce soit complètement imprégné dans tous les domaines, dans tous les niveaux et c'est un très bon, une très belle initiative. Alors... En fait, David Dufresne disait tout à l'heure que la définition que donnait sa mère, sa grand-mère, correspondait pas forcément à celle d'aujourd'hui. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoféminismes, il y a plusieurs façons d'en parler, et que ça fait partie des termes qui ont été récupérés, dévoyés. Mais pour autant, moi, je fais partie de celles qui pensent qu'il faut... ça a grippé sur ce mot, même si je ne cache pas la Confédération paysanne, la Via Campesina ne le sont pas eux-mêmes appropriés. On parle plus facilement de féminisme paysan. Et bon, c'est bien, populaire et paysan, c'est bien, mais pour moi, dans l'écoféminisme, ça va plus loin et c'est largement intéressant, même si en fait on dit la même chose. Mais après, c'est une question de langue. Moi, ma définition de l'écoféminisme va tout à fait et pratiquement calquer ce que j'en comprends moi et quand je prononce ce terme, c'est, c'est exactement cette idée que ça fait système. Et c'est ça qui est intéressant aussi, pour une des raisons pour lesquelles c'est lié ce soir, c'est que ça fait système, en fait. Il n'y a pas une lutte féministe, une lutte écologiste. Il y a un tout qui fait qu'on en est arrivé là. Et si on en est arrivé là, si on en est à... on est dans un système qui a été dominé par le patriarcat, les femmes se sont retrouvées exploitées par ce système, et d'où mon slogan ici, féminin d'exploitant agricole, exploité agricole, parce qu'on se retrouve qu'en fait, effectivement, dans l'histoire, avec un grand H, si les paysans ont réussi à peu près s'en sortir, et aujourd'hui encore, c'est parce qu'il y a le travail gratuit des femmes, des enfants et des anciens. Si tout était compté, si les heures étaient vraiment comptées, ce serait juste pas possible. Et donc cette exploitation de la terre et des femmes sont sur les mêmes bases. Et c'est ça que je ressens au plus profond de moi-même. Quand on parle d'écocide, ça me résonne féminicide de la même façon. Il y a quelque chose du pouvoir de la domination qui fait que notre système culturel et économique va dans ce sens-là de la destruction par l'accaparement, la domination des femmes, de la nature en général. Alors, après, on ira plus loin sur comment ça peut évoluer, etc. Mais je vais te laisser aussi t'exprimer.
Merci. Donc sur l'écoféminisme, si on doit, enfin, pour poursuivre, je suis maudite. Pour poursuivre ce que tu as dit, Josie, c'est aussi cette notion qu'il y a derrière la définition de l'écoféminisme. C'est le fait que derrière la domination patriarcale, tout de suite accolée à l'exploitation, cette notion d'exploitation, donc qui se décline sur une division sexuelle du travail entre les hommes et les femmes, mais aussi au niveau mondial entre les différents pôles de la planète. Donc ce que les pionnières écoféministes avaient très bien saisi, et c'est là l'originalité de la vision qu'elles apportaient, c'était que c'était la Terre entière qui était concernée par le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de genre. Vous le voyez dans le documentaire, enfin, dans le film qui va suivre, il y a un moment donné une femme qui dit « ce n'est pas une question de genre ». Effectivement, l'écoféminisme, c'est un féminisme qu'on peut qualifier de radical. Ça veut dire qu'on va à la racine des choses, à la racine des problèmes. Et là, on met les mains dans le cambouis et on va voir où est l'origine de tous nos maux. Et en fait, c'est cette exploitation qui est à l'origine des maux qu'on peut avoir aujourd'hui. L'exploitation de la terre, l'exploitation des peuples autochtones, l'exploitation des ressources, des enfants, des femmes, des plus faibles. Et cette exploitation-là, d'où vient-elle ? Eh ben, d'un système patriarcal. Le système patriarcal, donc on dit le système patriarcal, je ne devrais pas, un système patriarcal. C'est pas le système originel, c'est pas le seul qui existe. C'est un système qui s'est imposé par la violence sur toute la planète, parce que c'était le plus violent, en fait, tout simplement. Et c'est celui qui domine aujourd'hui. Sauf qu'il existe d'autres façons de vivre, d'autres façons de vivre en harmonie avec la Terre et avec nos besoins. On parlait de besoins tout à l'heure, et dans une question plus de subsistance. Cette notion de subsistance est aussi consubstantielle à l'écoféminisme, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la réponse qui est dans la vie bonne, en fait, dans la vie humaine, digne et respectueuse et respectée. Donc il y a vraiment cette notion-là d'exploitation qu'il faut combattre. Voilà, j'ai un peu parlé.
Ben, merci. Josie, est-ce que tu peux nous parler, toi, un peu plus de ton expérience à la Via Campesina ? Pourquoi il y a un groupe de femmes qui s'est monté aussi au sein de la Confédération paysanne et tout ça ?
Oui. Il y a une impulsion qui est venue au niveau international dans les années 2000-2002. qui s'est rendu compte que au niveau du bureau international, il n'y avait qu'une femme. Et ils ont eu c'était une Canadienne qui a eu ce réflexe de dire, mais c'est pas possible de continuer comme ça, on peut pas continuer avec une seule femme dans un bureau de 8. Et du coup, la décision a été prise de doubler le nombre de personnes pour qu'il y ait aussi des femmes, parce qu'il était difficile d'enlever les hommes qui étaient là depuis le début et les remplacer par des femmes qui arrivaient et qui n'avaient pas eu de formation jusque-là. Et ça avait été une très belle initiative, parce que c'était effectivement la façon de faire rentrer des femmes en groupe, en nombre. Et c'est à partir de là que a été impulsée cette idée qu'il fallait que toutes les organisations membres en fassent autant. Mais là, c'est pas gagné. Parce que la France notamment, la Confédération paysanne, comme beaucoup de groupes politiques et syndicaux, se voyaient au-dessus de ça, pensaient que pour nous, chez nous, le féminisme, c'est évident, les femmes, on les adore, on les respecte, et puis si elles n'ont pas de place dans les comités, c'est parce qu'elles ne veulent pas y être, en fait. Si elles voulaient y être, elles y seraient. C'était exactement... Mais ça, c'est pas propre à la conf. Je le raconte parce que c'est mon vécu et que je veux appuyer là où ça fait mal. C'est aussi notre rôle aujourd'hui, quand on veut parler de féminisme, de dire où c'est que ça va pas, où c'est que ça et ça continue. Pas forcément à la conf, si, mais partout. Le féminisme est loin d'avoir gagné. Et on a eu un mal fou. D'ailleurs, Laurence l'a bien dit tout à l'heure, on est à 30%. Et c'est remis en question régulièrement. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais bon, peu à peu, on est arrivé par la parité, par des luttes comme ça. Ce sont que des outils, on est d'accord que ça ne se suffit pas. Mais on arrive à avoir fait quand même beaucoup évoluer les choses. Dans la mesure où, quand moi je suis arrivée à la conf dans les années 2000, le groupe femmes, la commission femmes que nous étions, ramait beaucoup. On était sur les questions des statuts. Parce qu'effectivement, le statut de chef d'exploitation est pratiquement toujours pris par l'homme. Et les femmes se sont retrouvées régulièrement sans droit, sans statut, sans rien. Et si jamais il y a un divorce ou un décès, ça peut être une catastrophe. Après, comme vous l'avez fait, c'est un joli pied de nez, mais ça ne résout pas le problème d'une personne qui n'a pas de statut. Donc là, on se bat au niveau de la Confédération paysanne pour que tout le monde ait des statuts. Mais c'est quand même un joli pied de nez au système et un renversement qui vaut le coup d'être souligné. Dans les luttes qui ont dû être menées, il y a aussi évidemment l'écriture inclusive, il y a tout ce travail qui a été énorme et qui est encore et toujours re-questionné. Mais votre journal en écriture inclusive, donc en féminisant tout, ça alourdit, ça gâche la langue, notre langue française qui est si belle, mais notre langue française, elle est juste sexiste et elle n'a pas toujours été. Et ça se change. Et il faut le verbaliser. Quand on me dit un paysan, je ne vois pas une paysanne. Si on me dit un paysan et une paysanne, je vois les deux. Et ça, c'est évident. Et le masculin qui l'emporte sur le féminin, tout ça, enfin, c'est des luttes qui sont quotidiennes. Hein. On n'a rien gagné. Il faut tout le temps se battre et rappeler et rappeler. Et alors, ce qui est magnifique quand même, c'est que là, aujourd'hui, il y a une commission femmes qui est très large. Je ne sais pas combien c'était l'année dernière, mais moi je me rappelle d'un regroupement en 2023 où nous avions fait une très très belle déclaration finale et nous étions 87, donc quelque chose de magnifique. Toutes ces jeunes femmes installées ou pas encore, mais avec un féminisme très affirmé, et donc ça veut dire qu'il y a quand même, ça change, il y a quelque chose qui évolue, et ça nous fait du bien. On n'a pas c'est pas exactement des groupes comme le tien, mais il y a quand même une écoute par rapport aux violences faites aux femmes et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, donc des groupes d'écoute. Et je continue un tout petit peu, je te passe la parole après, sur les violences par exemple, parce que ça me vient en même temps. C'est aussi complètement impulsé par la Via Campesina. La Via Campesina lance, après l'avoir préparée des années, en 2008, On lance une campagne internationale contre les violences faites aux femmes. Et moi, j'arrive à la conf tellement contente avec ça, parce que j'étais vachement boostée par toutes ces femmes paysannes qui avaient... on avait fait des mises en scène de lancement de campagne qui étaient grandioses, donc avec des Sud-Américaines, avec des Africaines, enfin une dynamique extraordinaire. Et moi, quand j'arrive en comité national et que je dis... C'était formidable. On a une campagne à mener contre les violences faites aux femmes. Et ben là, ça tombe à plat. On me dit, mais quel rapport ? Ah, parce qu'on croit que chez nous, il n'y a pas de problème. Que le problème des violences faites aux femmes, il doit être traité ailleurs. Non, c'est dans nos propres organisations qu'il faut prendre le problème et se regarder en face. Il n'y a pas de raison que dans nos syndicats, il y ait moins de violences qu'ailleurs. C'est partout, c'est toute la sociale, tous les âges qui sont traversés par ces problèmes-là. Donc c'est aussi à nous de prendre ça en charge. Et à l'intérieur des syndicats, la lutte, ce qui est intéressant dans la lutte, c'est comment on l'amène. C'est pas d'aller très vite sans les femmes. Donc il y a tout un boulot, mais on a bien avancé. Et moi j'ai confiance parce qu'il y a une belle jeunesse, qui, aussi bien masculine, féminine, qui capte bien. Ça, ça fait plaisir.
Et du coup, pour finir un peu le petit historique, donc Rassemblement 2022, Bagnolet, c'était ça ? Ou 2023 ? Ouais, je ne me rappelle jamais. Donc du coup, à Bagnolet, ce fameux rassemblement avec les 87 femmes paysannes. L'une des retombées, en tout cas en Aveyron, ça a été que trois Aveyronaises sont parties à Bagnolet et sont revenues en disant « c'était génial, porté par cette dynamique, on va créer un groupe femmes en Aveyron ». Ce qui s'est produit, et on a entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça, et ainsi que d'autres paysannes, et s'est monté ce groupe. Donc la première réunion où j'ai été, le groupe existait déjà depuis quelques mois, et ça a été terrible, parce que en fait, donc l'animatrice qui était là, donc nous présentait l'intégralité de ce qu'on allait voir à l'ordre du jour, et à aucun moment on n'a pu parler. Il y avait la conf qui nous sollicitait pour ci, l'ADR qui nous sollicitait pour ça. En fait, le groupe n'avait même pas le temps de vivre, qu'on était déjà débordé. Notre agenda était débordé, on était sollicité par tout le monde. C'est génial ce que vous faites, c'est trop bien, vous pouvez intervenir là-dessus, nous donner votre avis sur ça. Et en fait, je suis ressortie de là en disant, c'est pas du tout ce que j'étais venue chercher. Heureusement, la réunion d'après, je me suis un peu accrochée parce que voilà, j'en avais gros. Et en fait, on a pu se détendre et on a pu vraiment faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire prendre le temps de se présenter, de s'écouter, de dire ce qu'allait ou ce qu'allait pas sur nos fermes, de se rendre compte qu'on était toutes un peu dans la même panade, qu'on avait les mêmes soucis qui prenaient différentes formes, les mêmes impressions, les mêmes questions, les mêmes doutes, beaucoup, beaucoup de doutes sur nous-mêmes. Et que voilà, en fait, on était là pour s'écouter et pour en fait gagner en pouvoir nous. Donc, si je vous raconte cette anecdote de la première réunion, c'est parce que je rejoins un peu cette relation au syndicat. C'était le groupe de femmes conf qui avait donc donné naissance entre guillemets historiquement à notre groupe. Et on a eu un mouvement après qui s'est un peu affirmé dans le temps, où on s'est dit non, en fait, nous, on veut garder notre autonomie, on veut garder notre indépendance par rapport à ces sollicitations-là. On veut pouvoir vivre, notre groupe veut pouvoir vivre et on veut pouvoir faire ce qu'on a envie de faire d'abord, avant d'être récupéré politiquement par des syndicats ou d'autres organismes qui voulaient sans doute bien faire, hein, qui voulaient nous inclure dans leur lutte en disant « mais c'est super, il y a des femmes qui font des choses là, allez, on va ajouter une composante féministe, féminine, voyez ce que vous voulez, à notre quotidien, quoi, enfin, à ce qu'on fait d'habitude. » Et ça, c'est le danger numéro un des groupes de femmes qui se font récupérer, phagocyter, en fait... récupérer en vol, en fait, j'allais dire, parce que toute la colère ou la verve, la rage qu'on peut avoir, et ben, elle se fait récupérer et dévier, en fait, prise par autre que nous. Et là, on se faisait déposséder de notre propre élan. Et du coup, on a dit gentiment à la conf, on est vraiment très content que vous soyez là, on est quasiment toutes adhérentes à la conf. Par contre, le groupe femmes qu'on a, c'est pas le groupe de la conf. C'est le groupe des femmes aveyronnaises, voilà, les travailleuses de la terre. Et on est partenaires, on est tout ce que vous voulez, mais par contre, on n'est pas votre groupe. Et ça, ça a été, pour moi, c'est assez symbolique, parce que le danger, il existe vraiment pour les groupes de femmes militants, ou de se faire récupérer par des gens très bien intentionnés ou moins bien intentionnés, mais c'est la cause numéro un des morts de groupes féministes, ou féminins, tout simplement. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions ? Rien d'autre que des cercles de parole, et c'est déjà énorme. On se voit que toutes les 6 semaines, on se voit pas tout le temps. Tout le monde ne vient pas à chaque fois, on est nombreuses. Je disais c'est nébuleux parce qu'on se connaît pas toutes, même des fois on vient à une réunion, ça fait 2 ans qu'on est là, on rencontre une nouvelle personne et voilà, c'est super. Mais par contre, ce qui est puissant, c'est le fait de savoir que ce groupe existe, de savoir qu'il y a d'autres paysannes qui sont là, comme nous. Et ça, ça donne le pouvoir d'agir au quotidien sur nos fermes, mais aussi dans nos vies. Je disais que tout à l'heure, le groupe avait changé ma vie, parce que pas seulement dans mon métier, mais aussi sur le regard que je portais sur le monde. Tout simplement, se retrouver en non-mixité une fois dans sa vie quand on est une femme, ça fait bizarre. Moi, ça m'était jamais arrivé et franchement, j'ai découvert des choses sur moi, sur ce qui pouvait ce que j'avais manqué en fait, la vision qui m'avait manqué, de voir ce que ça faisait de se retrouver avec des pères, A-I-R-E-S, de se retrouver entre nous, quoi, et de voir qu'il y avait des codes ou des oppressions qui disparaissaient, desquelles j'étais même pas consciente en fait. Et ça change tout. On n'est pas prête de revenir après quand on se retrouve à avoir fait un chantier éco en non-mixité. La fois d'après, on est avec, en mixité, on se laisse plus prendre la perceuse des mains ou on va conduire le tracteur et on n'attend pas que le mec le fasse, quoi. Vraiment, là, on se sent légitime. On sait qu'on peut le faire, qu'on l'a fait, qu'il n'y a pas de souci. Et surtout, on se laisse plus marcher sur les pieds . Et ça, c'est vraiment une expérience puissante. Et voilà, ça, c'est ouvert, c'est accessible à toutes, en fait. À partir du moment où on arrive à trouver des copines qui sont qui sont dispo pour ça. Mais du coup, c'est précieux. Il faut vraiment se garder cet espace-là. Et surtout, ne laisser personne nous le retirer. Voilà. Pardon, j'ai beaucoup parlé.
Tu veux réagir là-dessus, peut-être, Je voulais juste
rajouter quelque chose sur mon expérience personnelle par rapport à la légitimité de la parole en tant que femme. Et dans la lutte, justement, ça fait depuis 2024 seulement que je me suis investie dans la lutte à ELC. Et ça a été très difficile au début, moi, avec tout mon héritage du patriarcat, comme beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à prendre la parole, à dire mes idées, à me sentir légitime dans cette lutte. Et il a fallu, en fait, je me suis rendu compte qu'il a fallu que moi-même, c'est pas les autres qui vont me donner la parole, ce ne sont pas les hommes qui vont me donner la parole, c'est moi qui vais la prendre, c'est moi qui vais prendre ma place. Donc on a un travail à faire là-dessus. Voilà, je voulais rajouter ça.
Carrément. Et alors moi, je voulais revenir sur le groupe mixte, du coup, puisque moi, je l'ai plus vécu au niveau du syndicat dans la mixité, encore que moi, j'ai beaucoup été avec la Marche mondiale des femmes qui est en non-mixité. Ce qui a été compliqué et qui reste compliqué, mais beaucoup moins maintenant quand même, j'y suis plus, mais je vois bien que c'est beaucoup moins compliqué que ça ne l'a pu l'être à mon époque, c'est qu'en fait, effectivement, il y avait la bonne volonté d'ouvrir aux femmes, mais en fait, on se retrouvait dans une organisation qui avait été faite par des hommes pour des hommes. Et donc, notre place, on ne la trouve pas. C'est pour ça qu'on est mieux en non-mixité. Parce que notre place, on ne la trouve pas. Donc, il faut arriver à inventer un autre fonctionnement collectif. Et ça, c'est un gros challenge. C'est un très gros challenge.
Peut-être qu'on peut du coup, on se posait la question avec Flora et en coulisses, on a commencé à en parler un petit peu avec Sarah et Josie. Alors, la question était posée comme ça. Après, je pense que Sarah et Josie vont réagir. Comment peut-on faire pour amener les hommes à lutter avec nous ?
Tu me cherches. elle me cherche parce que je lui ai déjà donné la réponse et elle sait que... Mais je vais être franche finalement. Je ne vais pas tourner autour du pot. Moi, je vais dire qu'il faut que les mecs ils se prennent en charge. Parce qu'on a fait déjà beaucoup de choses pour eux depuis leur naissance. Et ce n'est pas à nous de leur dire comment il faut qu'ils fassent pour se libérer du patriarcat. Parce qu'effectivement, ils sont eux-mêmes victimes de ce patriarcat. Mais est-ce que c'est à nous de prendre ça en charge? Je ne crois pas. Je pense que les hommes peuvent. D'ailleurs, à la Via Campesina, il y a un groupe d'hommes qui travaillent, comme nous, on travaille en non-mixité, en groupe d'hommes, entre hommes, pour parler des problèmes d'hommes. Et je pense que c'est très important. C'est par eux que ça passera, c'est pas par nous. Alors, nous, on est à côté, comme eux peuvent être à côté de nous dans notre lutte. Mais le travail, c'est à eux de le faire. On ne pourra pas le faire pour eux.
Et tout à l'heure, en coulisses, ça m'a évoqué la question de Flora et Sophie. Ça m'a rappelé la semaine dernière. Je vais raconter. Donc, c'était un temps horrible et c'était mon jour de travail parce qu'on alterne, en fait. Pour tout dire, on a deux petits garçons et ils sont en école à la maison. Du coup, on fait un jour avec papa, un jour avec maman. Et le reste du temps, papa ou maman travaillent. Et ce jour-là, c'était mon jour de travail et voilà, il fallait qu'on aille semer le sarrasin. Et je vois avec mon mari, on avait tout un tas de bazar à faire en mécanique, réparer le semoir et amener un plateau. Donc un plateau, c'est une très très grosse remorque qu'on met au tracteur. Et là, il fallait la bouger quelque part pour ne pas faire des trajets inutiles. Et moi, je n'ai jamais conduit ce truc sur la route. Donc je dis à mon mari, non mais je ne peux pas le faire et tout. Il me fait, mais de toute façon, c'est ton jour de travail, je ne vais pas le faire à ta place, c'est à toi de le faire. Bon, sur le coup, je lui en ai vraiment voulu. Mais après, je l'ai fait. Personne n'est mort. Et je suis très contente de moi. Et peut-être que c'était le meilleur truc qu'il pouvait faire pour m'aider. Voilà. Donc là, franchement, du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que peuvent faire les hommes pour nous aider ou pour participer aussi? Et c'est nous faire plus confiance et nous donner confiance en nous aussi. Donc, en nous laissant faire et en nous encourageant à le faire, déjà, c'est beaucoup. Et aussi en se libérant eux-mêmes des contraintes qu'ils pensent avoir à toujours résoudre nos problèmes, même s'ils n'ont pas la solution, de quand même trouver une solution, même quand on leur a rien demandé. Voilà, donc ça, c'est aussi se décharger de ce rôle qu'ils pensent avoir, et ça va leur libérer aussi, je pense, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans leur vie. Voilà.
On va poser une question aussi sur l'agrivoltaïsme. Qu'est-ce que, pour vous, comment l'écoféminisme résonne avec les luttes qu'on mène ici, la thématique de ce festival qu'on mène un peu partout, sur toute la surface de la Terre d'ailleurs?
Carrément. J'ai pas compris que David n'ait pas compris. Là, il y a un truc qui m'a échappé. Il n'a pas bien lu Françoise de Beaune, peut-être. Pas. Parce que ça me paraît très clair, on est sur l'extractivisme, on est sur... on souille la terre complètement, on la prostitue. Enfin vraiment, ça fait partie des pires projets qu'on puisse avoir, cet agrivoltaïsme. Alors, qu'on puisse se poser des questions sur le photovoltaïque, sur les toits, etc., bon, c'est une autre question. Mais là, il est question d'agrivoltaïsme. C'est sur des terres. C'est des terres qui vont être abîmées. Alors, je pense qu'effectivement, il connaît pas le sujet, en fait. Mais ce n'est pas possible de ne pas comprendre que l'agrivoltaïsme, le voltaïsme sur les terres, agri ou pas, c'est pas du tout envisageable. Et l'écoféminisme, évidemment, est complètement en lien avec ça, puisque c'est abîmer la terre, l'exploiter. Là, on est quand même dans une notion de terre-mère. On est dans une notion de précieux, de reconnaissance de terre vivante et de respect des animaux, etc. Que le voltaïque... Le photovoltaïque détruit comme c'est pas permis. Donc le lien il est absolu, comme il peut l'être dans d'autres luttes, toutes les luttes extractivistes, toutes les luttes nucléaires, etc.
Oui, moi je n'ai pas compris non plus sa réaction, enfin son avis. Je pense qu'il reste sur le fait de la consommation d'énergie, sans vouloir absolument remettre en question le confort dans lequel on est. Et encore, j'irai plus loin, le confort. Notre confort, oui, c'est d'avoir la bouilloire électrique. Bon, plein de choses comme ça qui me paraissent pas du tout nécessaires. Mais au-delà de ça, il y a aussi nous, citoyens, qui consommons. Mais qui consomme quoi ? Il y a quand même certaines personnes, je pense comme l'Assemblée ici, qui consommons d'une certaine façon. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui consomment. Mais c'est une catastrophe, en fait. Il y a les riches, je suis désolée, mais il y a les riches qui consomment. Qui consomme quoi ? Donc, on va garder la volonté de produire de l'énergie au-delà de la raison pour des gens, en fait, qui s'en foutent de foutre en l'air la planète. Et nous, on va crever avec eux, en fait. Donc, ouais, je ne comprends pas non plus David Dufresne.
Juste pour ajouter, donc effectivement, l'agrivoltaïsme, ben, ça, on parlait d'exploitation tout à l'heure, on peut l'analyser sous cet angle-là. L'exploitation, elle commence par l'extractivisme à l'autre bout de la terre pour fabriquer les panneaux. Elle se poursuit par les déforestations, l'accaparement des terres qui sont tout simplement exploitées. Donc. Et puis, voilà, qui va se charger de ce démantèlement ? On est sur une exploitation totale. Et du coup, on est clairement dans les clous de ce que combat l'écoféminisme. Donc, voilà, la question, elle est assez vite réglée.
Est-ce que il y a des combats pour vous qui ont été particulièrement marquants et qui vous ont donné envie ou alors je peux élargir, mais en gros, qu'est-ce qui vous a donné vous envie, enfin qu'est-ce qui vous a sensibilisé à l'écoféminisme, des combats, des luttes, des lectures, des films, des temps de rencontres que vous avez pu voir?
Donc moi, l'écoféminisme, je l'ai découvert en lisant Maria Miss, qui est une des pionnières à avoir écrit sur l'écoféminisme. Donc c'est une femme qui a écrit après ses expériences avec les paysannes indiennes. Elle décrit en fait ce qu'elle a appris à leur côté, ce qu'elle a vu sur le terrain. Donc c'est pas une universitaire qui écrit dans son bureau, c'est vraiment quelqu'un qui est allé au front et qui a recueilli la parole, l'expérience de ces femmes qui étaient des paysannes indiennes. Et elle formalise en fait la pensée qu'elle a décelée dans leur lutte à elle. Donc ça date des années 70, hein, on est dans la même période que Françoise Daubonne. Et elle décrit ce dont on a parlé, c'est-à-dire un féminisme qui part du bas, qui part, enfin vraiment un féminisme de terrain, radical, parce qu'il va au fond des choses et il est voué à répondre à des vraies questions de survie. Là, on est dans la survie. Hein. Enfin, Françoise Daubonne écrivait le féminisme ou la mort. Donc pour elle, il n'y avait pas de choix, en fait. C'était la seule voie possible pour sortir de l'impasse. Et pour Mariamis, c'est pareil. Donc c'est elle qui m'a vraiment, j'ai été éblouie par ses livres. Elle a notamment écrit, qui vient d'être traduit en français, « Patriarcat et accumulation à l'échelle mondiale », je vous recommande ce livre, il est extraordinaire. Donc elle parle justement de ces rapports d'exploitation mondiaux qui expliquent en fait pourquoi les femmes sont exploitées. Parce qu'on peut faire le constat dans sa vie quotidienne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est déséquilibré, mais pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui se trame derrière ? Et c'est vraiment un énorme iceberg qui est dessous. Là. Enfin, on n'est pas sur on n'est pas, encore une fois, sur des petites questions d'éducation ou... il faut mieux apprendre aux petites filles à ne pas jouer avec des Barbies et aux garçons. Enfin voilà, non, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical et de beaucoup plus total et pernicieux. Donc ça pousse à aller vraiment vision des choses, analyser notre histoire, la façon dont elle est racontée, avoir un esprit critique sur la façon dont l'histoire est racontée, parce qu'elle est souvent racontée aussi par des hommes, désolée. Mais voilà, il y a tout un pan de la littérature, il y a beaucoup d'historiennes qui ont écrit ensuite avec un regard féministe et écoféministe et qui ont permis de dévoiler en fait des zones d'ombre de l'histoire ou des interprétations qui ont été faites et qui ont vraiment formaté notre façon de nous voir en tant qu'espèce. Et je trouve que enfin, voilà, ça m'a ouvert cette porte-là et depuis, je vais de découverte en découverte. Après, il y a Sylvia Federici qui a écrit aussi Caliban et la sorcière où elle parle de la chasse aux sorcières. Donc ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup remué, la chasse aux sorcières. Et voilà, elle n'a jamais été aussi actuelle. Enfin, quand on sait qu'on apprend que la première... Donc c'est le début du capitalisme, hein, le capitalisme qui est venu parce que c'est un système qui est très fortement adapté au patriarcat, qui s'est appuyé sur le patriarcat de l'époque pour commencer son accumulation primitive par en fait l'accaparement des biens des femmes puissantes qu'on a en fait tout simplement trucidées, quoi, en les traitant de sorcières et par un système, vraiment une mise en place d'un droit patriarcal à ce moment-là. Enfin, il y a carrément des métiers masculins pour instaurer les procès des sorcières qui ont été inventés à cette époque-là. Le droit qu'on a actuellement est issu de ces prémices-là, donc il faut s'en rappeler aussi tous les jours. Voilà, ça explique des choses aussi sur la justice et enfin sur le de quel côté la justice en général. Enfin, bref, je vais trop loin. Mais voilà, du coup, voilà, c'est ça qui m'a ouvert un peu les yeux.
Mais moi, je crois que j'ai toujours été écoféministe, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai toujours eu en moi ce sentiment d'injustice sociale, d'injustice environnementale. Et quand j'ai découvert Françoise Daubonne, il n'y a pas si longtemps, hein, je ne sais pas dire, il y a 10, un peu plus, pas beaucoup plus, eh bien, j'ai eu honte carrément parce que je me suis dit mince, mais elle était géniale, elle était juste géniale, mais qu'est-ce qu'elle a dû souffrir ? Elle a été complètement ignorée, elle a été hyper malmenée finalement. Enfin, moi, je l'ai ressentie comme ça. Et alors moi, j'avoue, j'ai pas lu Françoise Daubonne dans le texte. Quand j'ai essayé, j'ai trouvé ça difficile. Donc j'ai lu beaucoup sur la pensée de Françoise Daubonne. Et tout ce que j'ai pu lire, ou j'ai écouté aussi tout ce que David Dufresne racontait tout à l'heure, je l'ai trouvé aussi assez génial. Moi, j'ai été fascinée et j'ai reconnu tous les concepts qu'elle mettait. Et elle, en fait, ça mettait des mots sur des choses que moi, j'avais vécues, notamment avec la Marche mondiale des femmes, lorsque j'étais avec la Via Campesina et au Conseil... au Conseil international des forums sociaux mondiaux, on était en lien avec la Marche mondiale des femmes, qui est un très très grand mouvement féministe, très très intéressant, que je vous conseille de consulter si vous ne le connaissez pas. Il y a vraiment des très très belles notions féministes et des belles luttes, c'est des marches. Hein, l'année dernière, je disais justement que l'année dernière, ce même jour, j'étais pour la Marche mondiale des femmes à Marseille, avec des très très beaux débats aussi sur le féminisme. Ce qui a été intéressant, je vais bien faire une petite parenthèse là, avec la Marche mondiale des femmes, c'est qu'elles ont pu saisir et divulguer au sein du mouvement féministe la notion de souveraineté alimentaire. Quand la Via Campesina est arrivée en 1996 et a parlé de souveraineté alimentaire à la FAO, c'était une femme, Pancha, qui est arrivée et qui a fait sa déclaration sur la souveraineté alimentaire. Sachant que la souveraineté alimentaire, la bonne définition est là-bas. Même ici, à longueur de journée, on confond avec l'autonomie alimentaire, alors que quand Via Campesina parle de souveraineté alimentaire, on ne parle pas d'autonomie alimentaire, on parle d'un concept politique qui est un choix, qui a été un choix de politique alimentaire qui a été mis en place pour contrer l'OMC. On est dans un format très politique. Et là, la plupart du temps, et nos gouvernements s'en servent pour parler d'autonomie alimentaire. Ce n'est pas la même chose. Mais de même que l'écoféminisme, et le terme est dévoyé, de même ça devient des termes valises, tout le monde s'en sert sans savoir ce que ça veut dire. Et ça, c'est très dommageable à nous de travailler là-dessus. Et justement, la Marche mondiale des femmes, qui travaille aussi, bien sûr, beaucoup sur l'écoféminisme, etc., qui est tout à fait dans cette ligne magnifique de lutte globale, de lutte systémique, c'est ça qui est intéressant. C'est de comprendre comment ça fait système. Eh bien, elle a, on a travaillé ensemble pour faire comprendre aux féministes qu'en fait, la souveraineté alimentaire, c'était très important. Et ça a été très difficile parce que dès qu'on parlait d'alimentation, il y avait une méfiance essentialiste, c'est-à-dire qu'ils disaient, ben, en fait, voilà, on va nous remettre à la cuisine. Et non, la question, elle n'est pas d'aller à la cuisine, elle est de savoir qui produit quoi. Et comment ? Et puis la cuisine, c'est pas forcément si dramatique si elle est valorisée, si on fait pas ça par contrainte. C'est un bel acte de cuisiner, mais simplement comment c'est amené et le côté systématiquement féminin, ça c'est un problème. Mais faire la cuisine, c'est pas en soi un problème. Et c'est même, il faut se la réapproprier parce que là, sinon, on va tous manger du McDo et ça va pas le faire, ou des plats préparés. Donc ça c'est pas ça notre objectif. C'est effectivement de cuisiner, etc. Et donc avec la Marche mondiale des femmes, on a fait ce très très beau travail. C'est pas de la vulgarisation, mais de la popularisation de l'explication de ce que peut être la souveraineté alimentaire et à quel point c'est fondamental pour la lutte paysanne et la lutte féministe.
Bon, je ne sais pas si c'est la dernière question ou l'avant-dernière, avant un petit échange peut-être, on va voir. Maître du temps, Flora. Du coup, je reviens à Françoise Daubonne. Et dans son ouvrage « On vous appelait terroriste », elle déclare « L'écoféminisme est le carrefour de toutes les luttes révolutionnaires ». Est-ce que vous pouvez réagir sur cette phrase ?
Donc effectivement, ce qu'il y a de révolutionnaire dans l'écoféminisme, c'est justement le fait de lutter contre tous les exploitants en fait en même temps. Là, on est sur quelque chose de radical, comme je disais tout à l'heure. Donc, si on suit le raisonnement de l'écoféminisme, on est dans le mouvement de la vie en fait. Et c'est cette vie-là qu'on va défendre. Et en fait, tout ce qui va s'opposer aux bonnes conditions de vie, à la pérennité de la vie sur Terre, eh ben, on va être contre. En tout cas, on va lutter contre. Et du coup, bon, bah, on appelle ça des... Quand on lutte contre les dominants, on appelle ça un peu des révolutionnaires.